DW. Le journal. Bob Barry.
Et oui, c'est moi-même à l'antenne alors qu'il est 17h en temps universel, 18h ici dans nos studios de Bonn. Bienvenue dans cette seconde édition de nos informations sur la radio internationale allemande. Au sommaire, 10 ans d'emprisonnement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est la condamnation prononcée ce mercredi par la CPI contre un ancien chef de la police islamique de Tombouctou, là-bas au Mali. C'est un acte ignoble, déplore la famille de Patrice Lumumba, le mausolée qui abrite les restes du héros national congolais, a été vandalisé ce lundi à Kinshasa. Vous entendrez des réactions depuis la RDC. La RDC où des paysans de Béni, dans l'est du pays, ont décidé de planter des arbres pour renouveler les étendues de forêts détruites par l'exploitation forestière et la carbonisation du bois. Et puis nous irons au Sénégal où la large majorité accordée aux partis au pouvoir ne doit pas laisser croire qu'il pourra conduire une politique sans écouter les autres. Voilà pour les titres de DW Soir qu'on ouvre par le Flash Info. C'est avec vous, Georges Ibrahim Tunkara. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à tous. La Cour pénale internationale, la CPI, a condamné ce mercredi à 10 ans d'emprisonnement un djihadiste, ancien chef de la police islamique de Tombouctou au Mali, reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il s'agit de Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, dit Al-Hassan, malien de 47 ans et membre du groupe djihadiste Ansar Dine, qui avait pris le contrôle de Tombouctou pendant près d'un an à partir d'avril 2012. Il avait été déclaré coupable notamment de torture et mutilation en juin. On en reparle dans la suite de ce journal. L'Ukraine accuse la Russie de mener une opération de guerre psychologique massive après la fermeture provisoire de plusieurs ambassades occidentales, craignant une frappe russe. Au moins 5 ambassades occidentales, celles des États-Unis, d'Espagne, d'Italie, de Hongrie et de Grèce, ont annoncé fermer temporairement pour la journée de mercredi à cause d'une menace d'attaque aérienne de la Russie.
Un émissaire américain attendu en Israël.
Amos Hochstein a annoncé ce mercredi, après ses entretiens à Beyrouth, qu'il se rendrait en Israël dans le but de parvenir à un cessez-le-feu dans la guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne, qui se sont encore affrontés dans le sud du Liban. Arrivé mardi à Beyrouth, l'émissaire américain a poursuivi ce mercredi dans la capitale libanaise ses négociations pour tenter de parvenir à une trêve, après avoir déclaré la veille qu'une solution était à portée de main, mais que c'était obéi de décider. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait averti lundi qu'Israël mènerait des opérations militaires contre le Hezbollah, même en cas d'accord de cessez-le-feu. Les violences entre Israël et le Hezbollah ont fait plus de 3540 morts depuis octobre 2023, la plupart depuis le début de la campagne israélienne de bombardement le 23 septembre. Côté israélien, 79 militaires et 46 civils ont été tués en 13 mois.
Mais la guerre à Gaza a été ce mercredi sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Les États-Unis ont à cette occasion empêché le Conseil de sécurité d'appeler un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Nous avons été très clairs pendant toutes les négociations que nous ne pouvions pas soutenir un cessez-le-feu inconditionnel qui ne permette pas la libération des otages, a justifié après le vote l'ambassadeur américain adjoint, estimant que le Conseil aurait, par cette résolution, envoyé au Hamas le message dangereux qu'il n'y a pas besoin de revenir à la table des négociations. Le projet de résolution, qui a recueilli 14 voix pour et une contre, avait provoqué par avance la colère d'Israël. L'ambassadeur américain, l'ambassadeur palestinien au Conseil de sécurité a dénoncé ce vote américain. En Syrie, ce sont au moins 36 personnes qui ont été tuées dans les frappes israéliennes visant la ville millénaire de Palmyre dans le centre du pays. Un bilan fourni par le ministère syrien de la Défense.
Les présidents Lula et Xi Jinping se sont rencontrés.
Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a échangé ce mercredi avec son homologue chinois en visite d'État à Brasilia, alors que les deux grands pays émergents veulent renforcer leur coopération économique. Les deux dirigeants s'étaient rencontrés au sommet du G20 à Rio de Janeiro lundi et mardi. Le Brésil et la Chine sont tous deux membres des BRICS. Le Fonds social est en ébullition en Grèce. Environ 19 000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans le pays alors que les syndicats observent une grève générale de 24 heures réclamant des mesures de lutte contre la vie chère afin de garantir une vie digne. Cette grève générale a affecté en particulier les transports, écoles et tribunaux sont restés fermés et les hôpitaux ont fonctionné avec du personnel d'astreinte. Et puis pour terminer, Ford annonce des suppressions d'emplois en Europe. Le constructeur américain dit vouloir supprimer 4 000 emplois en Europe d'ici fin 2027, principalement en Allemagne et au Royaume-Uni. Une nouvelle illustration des difficultés du secteur automobile. Le plan annoncé par Ford représente 14% des effectifs du groupe en Europe. Parmi ces suppressions, 2900 doivent toucher l'Allemagne, 800 le Royaume-Uni et 300 l'Europe, le reste de l'Europe.
Merci beaucoup Georges Ibrahim Tunkara pour le flash international. Georges Ibrahim Tunkara qui nous revient de vacances en force.
DW.
Allez, nous allons donc essayer de parler pour l'instant de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale qui a donc condamné ce mercredi à 10 ans de prison Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, dit Al-Hassan, âgé de 47 ans. Il a été arrêté en 2018 par les autorités maliennes avant d'être remis à la CPI, membre du groupe djihadiste en Sardine. Il avait été reconnu coupable en juin dernier de torture, de mutilation, de procès illégaux et de persécution religieuse. Bonsoir Eric Topona.
Bonsoir Bobari.
Alors Eric Topona, vous êtes là dans ce studio et vous vous êtes penché sur ce dossier-là.
En effet, selon la juge Kimberly Prost, la peine infligée au djihadiste Al-Hassan est proportionnelle à la gravité des crimes et aux circonstances individuelles ainsi qu'à sa culpabilité. Le djihadiste malien devait répondre de plusieurs crimes, entre autres mutilation pour avoir amputé une main et torture en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre. Il était aussi accusé d'avoir arrêté puis d'avoir violé de nombreuses femmes à Tombouctou entre 2012 et 2013. Certaines étaient aussi flagellées en public. Et en 2012, il aurait amputé la main d'un homme accusé de vol, toujours dans cette ville du nord du Mali. Boubacar Bokoum est le président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté. Il se réjouit de cette condamnation.
Cette justice aujourd'hui rendue soulage les populations du nord et notamment les parents de ceux qui ont subi ces exactions. C'est dans le principe. Donc tous ceux qui sont dans cette chaîne de violence doivent subir de la même manière.
Voilà l'homme politique malien Boubacar Bokoum. Je rappelle que la Cour pénale internationale a acquitté Al-Hassan des accusations de crimes de guerre, de viol, d'esclavage sexuel et d'attaque contre des biens protégés, ainsi que de l'accusation de crimes contre l'humanité concernant des cas de mariage forcé.
Les djihadistes qui contrôlaient Eric entre 2012 et 2013 le nord du Mali ont commis, on le sait, plusieurs autres crimes et ont fait régner surtout la terreur.
Tout à fait, Bobari. Et pendant cette période, les destructions se sont multipliées, notamment à Tombouctou, Tombouctou qui a été fondée depuis plusieurs siècles par les tribus Touareg. La ville est aussi appelée la ville des 333 saints ou la perle du désert en raison du nombre de sages musulmans qui sont enterrés. Ainsi, plusieurs mausolées de saints musulmans ont été détruits par ces djihadistes. Al-Hassan est le deuxième djihadiste malien jugé par la Cour pénale internationale. Avant lui, en 2016, la CPI avait condamné à 9 ans de prison Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Sa peine a été réduite en appel en 2021. Il est accusé d'avoir détruit plusieurs sanctuaires de Tombouctou, Tombouctou Bobari, qui est classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité.
Mais j'ajoute, Eric Topona, que la CPI a émis en juin dernier un mandat d'arrêt international contre Iyad Ag Ghali, le patron du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ce groupe lié à Al-Qaïda opère au Mali, au Burkina Faso, mais aussi au Niger. La coordination la condamnation d'Al-Hassan, l'ancien chef de la police islamique donc de Tombouctou, a été commentée sur les réseaux sociaux, évidemment. Zanem Neti Zahedi, bonsoir.
Bonsoir Bob Barry, bonsoir à tous.
Allez Zanem, vous avez donc recueilli pour nous quelques réactions à ce sujet-là.
Oui, les avis des internautes sont partagés, certains saluant la peine prononcée par la Cour pénale internationale et regrettant seulement qu'elle n'ait pas été plus lourde, comme Omar Kanté du Mali qui écrit « Seulement 10 ans, ce devrait être la perpétuité, estime-t-il ». Abdul Moussa, également malien, soutient l'internaute précédent en déclarant que lorsqu'on a commis des atrocités, on doit s'attendre à une punition. D'autres internautes n'approuvent pas qu'une cour qu'ils considèrent comme étrangère s'émêle des affaires des Africains et crie à l'ingérence. Lanzare Kwaku suggère qu'il est temps pour les Africains de s'élever et de barrer la route à ces institutions. Aldo Mbaindo du Cameroun suggère que les autres dirigeants non-africains qui commettent les atrocités soient également poursuivis et condamnés. Nous l'avons déjà dit, Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mouhoud dit Al-Hassan, un Malien de 47 ans, avait été déclaré par la CPI en juin dernier coupable notamment des tortures, mutilations, procès illégaux et persécutions religieuses.
Merci Zanem Netizaidi. Vous restez à nos côtés pour d'autres réactions de nos auditeurs et auditrices de la DW. En Italie, toujours sur le front de la justice, la Cour de cassation a rejeté le recours de la chanteuse malienne Rokia Traoré contre son extradition en Belgique. Rokia Traoré devrait être transférée aux autorités belges dans les prochains jours. Sur le front politique maintenant au Mali, les propos virulents tenus par le Premier ministre malien de transition pendant le week-end continuent de susciter des réactions et des interrogations sur l'avenir politique de Choguel Maïga. Ce dernier, vous le savez, a critiqué les militaires au pouvoir et notamment le report des élections présenté comme une décision dangereuse et unilatérale, dit-il. Les militaires au pouvoir n'ont pas encore réagi officiellement, mais les organisations qui les soutiennent exigent le départ du Premier ministre de transition.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Le 20 novembre, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant. Celle-ci commémore un moment historique qui est la ratification en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant. À l'occasion de son 35e anniversaire, nous vous parlons ce soir de la Ehapi School, une école burundaise qui accueille des enfants qui auparavant vivaient dans les dépotoirs situés au nord-ouest de Bujumbura. Cette année, 112 enfants y sont inscrits et apprennent le français, l'anglais et le russe. La prise en charge est totale. Éducation, nourriture, hébergement et soins de santé. C'est un reportage d'un Teddy Test Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
Ici au nord-ouest de Bujumbura, l'école Heha Happy School qui existe depuis 5 ans est une source d'espoir pour une centaine d'écoliers retirés des dépotoirs pour être scolarisés dans cet établissement. Âgée de 14 ans et native du nord du Burundi, Jennifer Bikolimana est en 5e année.
Au dépotoir d'immondices, nous ramassions le charbon de bois, les objets métalliques, les restes de pommes de terre et de bananes. Donc, nous prenions les restes jetés. Certains étaient revendus, mais les pommes de terre, nous les cuisinions.
L'histoire est la même pour la centaine d'écoliers de cet établissement. Inscrit en 5e année, Bonheur Ndaizeye ne connaît ni ses parents ni son âge. Il se souvient de sa vie d'avant dans le dépotoir.
Je dormais sur du plastique et me couvrais de pièces de carton. Actuellement, je dors dans un bon lit et je mange jour et nuit. Même le matin, je prends le petit déjeuner, contrairement à avant.
Les enfants suivent le plus souvent leurs parents dans la fouille des dépotoirs. Pour convaincre les enfants de ne plus vivre dans des tas d'ordures, ils font donc conscientiser leurs parents. C'est le cas d'Imerde, 46 ans, et est chargé du nettoyage à la Heha Happy School, où sont inscrits désormais ses 3 enfants.
La vie était dure. J'étais incapable d'assurer l'éducation des enfants, les nourrir et les vêtir. Ils souffraient du kwashi orkor suite à la malnutrition. Maintenant, je vais bien. Je suis reconnaissante car j'ai même été embauchée.
Mais il n'y a pas que les enfants dans les décharges. Environ 5000 enfants vivraient dans les rues de Bujumbura, une préoccupation nationale et une source d'insécurité. Sylvestre Avzalimana est le coordinateur de l'association Retour à la vie qui s'engage pour l'éducation de ses enfants et s'efforce de leur faire quitter le dépotoir.
C'est vivre avec eux. On a pris l'initiative. Je leur ai montré l'amour, l'attention parce qu'ils en ont besoin. Parmi eux, il y a ce qu'ils n'ont même ni père ni mère, donc pas d'éducation. On a commencé à jouer aux différents jeux. On est devenus amis. Je leur ai proposé de venir à l'école.
La musique, la photographie, la couture et les jeux sont des activités proposées aux élèves après les cours de la Heha Happy School. L'établissement manque de moyens, mais il entend récupérer encore au moins 200 enfants qui vivent toujours dans les décharges de Bujumbura. En Teddy Testeniragira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Le monde célèbre donc la Journée internationale des droits de l'enfant ce mercredi 20 novembre sur nos réseaux sociaux. Zanem Netizaidi, des internautes ont aussi donné leur avis sur la situation des enfants dans certains pays d'Afrique.
Bien sûr, Bob. Didier Odari, du territoire des Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, estime que les enfants sont les premières victimes d'un pays en guerre, faisant référence à son pays où les enfants croupissent dans des camps de personnes déplacées, écrit-il. Nazael Madede de Tanzanie estime que son pays progresse dans le respect des droits de l'enfant, mais pense que de nombreux pays africains doivent faire autant. Tous les États doivent mettre en place des mécanismes pour protéger les enfants de certains dangers actuels et futurs, suggère-t-il. La situation des enfants est donc déplorable, constate la majorité des internautes et appelle la communauté internationale à l'aide. C'est ce que pense Kuyanja Mwakuhenga du Kenya qui écrit « La communauté internationale doit envisager des mesures pour protéger les enfants, surtout en Afrique ». L'avenir est en danger parce qu'il repose entre leurs mains, soutient-il. Face à l'avenir incertain des enfants, cette journée dédiée aux droits de l'enfant doit être un signal d'alarme, conclut Nour Moïse du Sénégal. En cette journée, nous devons nous rappeler l'importance de protéger, d'éduquer et d'offrir un avenir meilleur à chaque enfant. Que chaque enfant grandisse dans un climat de sécurité et de dignité, écrit-il. L'UNICEF a averti hier que l'évolution démographique, l'aggravation du changement climatique et l'évolution technologique rapide vont représenter des périls croissants pour les enfants à partir de la moitié du 21e siècle.
Et vous écoutez la radio internationale allemande, il est 17h16 en temps universel.
DW.
Allez, je vous amène maintenant loin de Bonn, en République démocratique du Congo. Là-bas, le mausolée qui abrite les restes de Patrice Emery Lumumba a été vandalisé ce lundi 18 novembre à Kinshasa, rapporte l'agence congolaise de presse. La famille du héros national congolais déplore cet acte qualifié d'ignoble. De leur côté, les autorités font savoir que des enquêtes sont en cours. Les explications avec vous, Wendy Bashi.
Jean-Jacques Lumumba, militant et petit-neveu de Patrice Emery Lumumba, nous explique depuis Kinshasa comment les faits se sont déroulés.
Des inciviques non autrement identifiés ont pénétré le mausolée, ont dû fracasser et ont voulu s'introduire pour pouvoir certainement dérober les reliques du feu Patrice Emery Lumumba. La situation était très vite maîtrisée par les forces de sécurité.
Le mausolée consacré au héros national a été forcé, la vitre a été défoncée et le cercueil jeté au sol dans des circonstances encore à élucider. Heureusement, les restes de notre aïeul étaient sécurisés, précise Amaury Lumumba, l'un des petits-fils de Patrice Emery Lumumba, dans un communiqué publié ce 18 novembre sur X. Un communiqué qui vient rassurer sur le fait que la dent de Lumumba, restituée officiellement à la RDC par la Belgique en 2022 n'a pas été volée. Toutefois, cet acte soulève de nombreuses questions à propos de la gestion du lieu et de sa sécurité. Il rappelle que ce site a pour vocation d'être un espace de recueillement et de rattraper le retard de la RDC en matière de politique de la mémoire.
Évidemment, il y a la question de la fétichisation de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Certains parlent de reliques et on comprend évidemment la connotation religieuse mais aussi mystique que ce type de reste peut convoquer, peut aussi avoir l'atteste du crime purement hasardeux, mais il faut aussi souligner que l'image de Patrice Lumumba en RDC n'est pas l'image de Patrice Lumumba en Afrique et elle n'est pas l'image de Patrice Emery Lumumba dans le monde. Et beaucoup de gens dans ce pays ont malheureusement combattu ce personnage pourtant adulé ailleurs.
Le cas congolais n'est pourtant pas isolé. En septembre 2011, la tombe de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, avait été profané par une personne présentée comme ne disposant pas de toutes ses capacités mentales.
Wendy Bashi sur la DW à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des communautés locales s'engagent, elles, à reboiser les forêts pour lutter contre le réchauffement climatique. Réunies autour des concessions forestières des communautés locales, ces populations paysannes ont décidé de planter des arbres pour renouveler les étendues de forêts détruites par l'exploitation forestière et la carbonisation du bois, c'est-à-dire la fabrication du charbon. Dans le début de l'année, des milliers d'arbres ont été plantés pour la sauvegarde de la biodiversité et la sécurité des forêts. Notre correspondant Pascal Mouindo Mapenzi nous signe ce reportage depuis Beni, dans le nord, donc Kivu.
Je suis vraiment content.
Chaque mercredi et vendredi, les habitants de la localité de Tenambo près de Oicha dans l'est de la RDC se retrouvent chez le chef de la localité pour récupérer les plantules d'arbres. Des milliers d'arbres ont été germés et sont distribués gratuitement aux habitants. Kambale Sinapahali est venu récupérer un nouveau lot d'arbres qu'il plante sur cette terre, située à seulement 2 km de la maison du chef de la localité.
Les exploitants des bois ont vraiment détruit nos forêts et la carbonisation du bois a été intense l'année passée. C'est comme ça qu'on nous a sensibilisé à planter des arbres afin de renouveler nos forêts. Pour le moment, j'ai planté 1500 tiges. L'avantage est qu'en plantant ces arbres, nous continuons à cultiver nos champs parce qu'ils abandonnent des feuilles qui fertilisent le sol.
Comme Kambale Sinapahali, Aline Kasomo a aussi compris l'importance de protéger les forêts. Pour encourager ses efforts, Aline vient de bénéficier d'un digesteur à biogaz qui convertit les déchets organiques en gaz de cuisson. Entre avril et septembre, 800 fours à biogaz ont été distribués au ménage dans la localité afin de réduire la coupe des bois pour la fabrication du charbon.
L'utilisation du biogaz a vraiment réduit les recours au charbon. Désormais, les sacs de charbon durent facilement un ou deux mois, alors qu'avant, les sacs de charbon étaient consommés en deux ou trois semaines.
Depuis le mois de janvier, au moins 130 hectares de forêts ont été reboisées dans la concession forestière de Tenambo grâce au financement de l'Union européenne. C'est logiciel Manzalo, agronome de la localité, les habitants envisagent de reboiser au moins 1 000 000 d'hectares d'ici 2030.
On est en pourparlers pour qu'on puisse venir certifier aussi notre forêt à partir de ce que nous sommes en train de faire, si les décideurs arrivent aussi à compenser nos efforts pour la construction des écoles, la construction des centres hospitaliers modernes et aussi la réhabilitation des routes de certes agricoles.
Dans leurs efforts de protéger la biodiversité, les détenteurs de concessions forestières des communautés locales ont l'avantage d'accéder aux contrats de crédit carbone et à des financements d'aide aux pays en voie de développement. Les codes forestiers congolais autorisent ainsi les communautés locales à faire des demandes de concessions forestières. Ceci permet aussi la protection et la sécurité des forêts. Pascal Mouindo Mapenzi depuis Beni pour la Deutsche Welle.
Et on en vient à présent au Sénégal. Malgré la tension politique préélectorale, le bon déroulement des élections législatives de dimanche dernier a une nouvelle fois encore montré après la présidentielle du mois de mars que les Sénégalais adhèrent aux valeurs démocratiques. Ainsi, la large majorité accordée au PASTEF, le parti au pouvoir, ne doit pas laisser croire au président Bassirou Diomaye Faye qu'il pourra conduire une politique sans écouter les autres. Les explications de notre correspondant à Dakar, Robert Hadi.
Ni les heurts entre partisans des différents partis, ni les appels à la violence du Premier ministre Ousmane Sonko ont pu entamer la sagesse démocratique du peuple sénégalais. En l'espace de 6 mois, les électeurs ont élu dans le calme le président Bassirou Diomaye Faye. Et ils viennent de lui accorder ce qui semble être une large majorité parlementaire à l'issue des élections législatives de dimanche dernier. Pour Mamadou Mian Diouf, coordonnateur du Forum social au Sénégal, c'est une tradition. Au Sénégal.
Les Sénégalais ont tout le temps voté, nonobstant tout le discours ou les attitudes ou les actes de violence que la classe politique commettrait ou pourrait continuer à commettre. À l'heure de voter, les Sénégalais sortent calmement de leur maison pour aller voter et rentrer sans quelque chose qui pourrait donc entacher cette taxe de vote.
La large majorité qui s'annonce à l'Assemblée nationale pour le PASTEF, le parti au pouvoir, n'est toutefois pas un chèque en blanc pour Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement, assure Ibrahima Aïdara, directeur du département des politiques publiques du laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs de l'Union Université Saint-Louis.
Heureusement que l'opposition va être représentée dans le nouveau Parlement, même si c'est une représentation faible. En donnant la majorité aux partis au pouvoir, les Sénégalais s'attendent à un nouveau type de Parlement. Les Sénégalais ne veulent plus de ce Parlement majoritaire mécanique qui, sans réfléchir, valide n'importe quelle politique publique proposée par le pouvoir exécutif.
Les jeunes sont les principaux acteurs de cette nouvelle dynamique politique. Si leurs attentes ne sont pas satisfaites, prévient le coordonnateur du Forum social, Mamadou Mian Diouf, il faudra alors s'attendre à des réactions de mécontentement de la jeunesse. Robert Adia Dakar pour la Deutsche Welle.
Je précise que la nouvelle Assemblée nationale au Sénégal, ou le PASTEF, pourrait donc détenir les trois quarts des sièges selon les projections de divers médias, devrait siéger très vite après donc la validation des résultats des législatives attendues la semaine prochaine. Le vote du budget 2025 retardé est la mère des dispositions. Je rappelle que le Fonds monétaire international a suspendu son programme d'aide après un audit des nouvelles autorités relevées. Devant, selon elle, que leur dévancière avait manipulé les chiffres du déficit et de la dette du pays. Allons à présent aux États-Unis avec le nouveau président élu Donald Trump qui poursuit ses nominations dans cette nouvelle administration qui prend forme. Le critère principal semble ne pas être la compétence mais une loyauté sans limite envers le président élu. George Ibrahim Tunkara nous dresse ici la liste de quelques nominations faites par Donald Trump.
Depuis sa victoire le 5 novembre, l'ancien président, qui retrouvera la Maison-Blanche le 20 janvier, a multiplié les nominations parfois surprenantes, puisant parmi les plus fidèles au sein de sa garde rapprochée. Et dans cette garde rapprochée, on retrouve Linda McMahon, l'ancienne présidente de la Ligue de catch américaine, nommée ministre de l'Éducation. Femme d'affaires de 76 ans, Linda McMahon avait été entre 2017 et 2019 ministre chargée des petites entreprises lors du premier mandat du républicain. Dans l'administration Trump, on retrouvera des stars de la télé, notamment Pete Hegseth, 44 ans, animateur sur Fox News et ancien militaire. Il a été choisi pour le poste de ministre de la Défense. Il a souvent interviewé le président Trump durant son premier mandat, mais n'a que très peu d'expérience politique. Autre star de la télévision a figuré dans l'administration Trump, Sean Diffuy, nommé ministre des Transports. À la tête de la diplomatie américaine, on retrouvera Marco Rubio, sénateur de longue date de Floride. Il s'est opposé à Donald Trump dans le passé, le comparant à un dictateur du tiers-monde, un sentiment qui semble désormais appartenir au passé. Le ministère de l'Énergie sera dirigé par un climato-sceptique soutenu par les compagnies pétrolières américaines. Il s'agit de Chris Wright, PDG de Liberty Energy, une compagnie pétrolière. Il est un défenseur des combustibles fossiles et ne croit pas au changement climatique. Donald Trump a aussi porté son choix sur l'ancien démocrate Robert Kennedy Jr. pour diriger le ministère de la Santé. Celui-ci, ouvertement opposé au vaccin, a plusieurs fois relayé des théories du complot, affirmant que l'autisme est lié au vaccin ou que le virus de la COVID-19 ethniquement ciblé épargne les Juifs et les Chinois. Dans l'équipe de Donald Trump, on retrouve aussi le milliardaire Elon Musk qui a obtenu le poste de chef du département de l'efficacité gouvernementale avec pour principale mission de réduire radicalement les dépenses. Disons que la loyauté compte plus que le CV, estime pour sa part Valérie Baudouin, chercheuse associée sur les États-Unis.
DW Le sport. Ali Fahad.
Et en football, on connaît désormais les 24 équipes qualifiées pour la CAN 2025 au Maroc. La Tanzanie, le Botswana et le Mozambique ont décroché hier mardi les trois dernières places qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu, vous le savez, en décembre 2025 et janvier 2026 au Maroc. En tennis, suite à l'élimination de l'Espagne par les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe Davis, Rafael Nadal a tiré sa révérence. Rares sont les joueurs, vous le savez, qui ont autant marqué le tennis de leur empreinte. Ali Farhat.
Dans quelques années, tout le monde aura oublié que Rafael Nadal a disputé et perdu son dernier match de tennis face au néerlandais Botik van der Zandschulp. Ce dont se souviendront les fans de tennis, c'est que l'Espagnol a tout simplement été l'un des plus grands joueurs à avoir foulé les courts de tennis. Roi incontesté de la terre battue, avec 14 titres remportés à Roland-Garros, Rafael Nadal a étendu sa domination à toutes les surfaces grâce à son inoxydable mental et sa résilience face aux blessures. Vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, Nadal est à deux longueurs de Novak Djokovic, qui n'a toujours pas pris sa retraite, et en compte deux de plus que son rival Roger Federer. Avec 92 trophées en carrière, le trône de numéro 1 mondial occupé pendant 209 semaines, 4 Coupes Davis et 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, en simple en 2008 et en double en 2016, Rafael Nadal possède l'un des palmarès les plus foisonnants du tennis avec ceux du Serbe et du Suisse. Mais malgré la célébrité et la richesse, c'est un Rafael Nadal plein d'humilité qui s'est présenté face au public de Malaga pour faire ses adieux au tennis après l'élimination de l'Espagne par les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe Davis. Le natif de Manacor sur l'île de Majorque espère que les fans garderont de lui l'image d'un homme simple.
Au
final, je suis un petit garçon qui a poursuivi ses rêves et j'ai travaillé dur pour en arriver là. Beaucoup de gens travaillent dur et font de leur mieux chaque jour, mais je fais partie de ceux qui ont eu de la chance. La vie m'a donné l'occasion de vivre des expériences inoubliables grâce au tennis. Je veux juste qu'on se souvienne de moi comme d'une bonne personne et comme d'un enfant qui a poursuivi ses rêves et qui a accompli beaucoup plus qu'il ne pensait. Rafael Nadal va donc profiter de sa retraite pour faire ce qu'il aime, à savoir aller à la pêche avec ses amis, regarder du football, un sport qu'il préférait au tennis quand il était enfant, et surtout passer du temps avec son épouse, Mary Perello, et leur enfant, Rafael Nadal Jr.
DW Vue d'Allemagne.